C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Bonjour fidèles auditrices et auditeurs de C'est le temps qui fait la panique. Bienvenue à ce numéro qui porte sur le discours gestuel, le langage non-verbal parfois utilisé pour faire des messages ou faire entendre des revendications, René.
Bonjour Wabel, bonjour fidèles auditeurs. Deux doigts pointés sur la tempe comme un revolver et une main sur la bouche. Ce geste de Cédric Bakambou, repris par la sélection de la RDC en match de demi-finale de la CAN pour dénoncer le silence de la communauté internationale sur les affres de la crise armée à l'est de la République démocratique du Congo est devenu viral sur les réseaux sociaux. De nombreux sportifs d'origine congolaise et même des politiques l'ont adopté pour faire entendre une revendication collective des populations congolaises. Plus qu'une simple mimique, ce geste devient porteur de messages, un discours, un langage pour dénoncer l'indifférence du monde face aux affres de la crise armée à l'est de la République démocratique du Congo, Babel.
Alors René, pourquoi un langage non-verbal pour dénoncer les violences dans l'est de la RDC? Est-ce que ce type de langage incompris ou mal interprété ne risque-t-il pas de conduire à des dérapages, à des violences? Comment ce langage peut constituer un moyen de communication efficace en période de crise? Des interrogations que nous voulons soumettre à nos invités tout au long de ce magazine. Nous recevons à cet effet M. Obulokwes, chef des travaux à l'IFASIC. Bonjour M. Obulokwes.
Bonjour Madame Babel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Mais avec lui, nous avons également M. Jean Moreau Toubibou, acteur de la société civile, animateur au sein du groupe Jérémy à Bukavu. Bonjour M. Jean Moreau Toubibou.
Bonjour Babel, je dis également bonjour à René, mais aussi bonjour au prof, au Bolonquès.
Bonjour. Oui,
merci beaucoup.
Bonjour, merci.
Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons nous rendre à l'université où un groupe adopte une tenue contraire à celle exigée pour contester l'installation du nouveau comité des étudiants. Suivant.
Bienvenue les amis, bienvenue.
Merci.
La fête va commencer.
Comment allez-vous?
Sentez-vous à l'aise?
Mais Kitoko, c'est quoi cette tenue que vous portez à Manier toi là?
Mais qu'est-ce qui t'a mis?
Noir, qu'est-ce qu'il y a? Au moins une
tuque de l'eau. Noir,
mais c'est quoi ça? Mais ça fait quoi?
Et un foulard rouge à nain.
Mais ça fait quoi?
C'est-à-dire quoi? Le nègre va combattre l'animal bas. Et pourtant, la consigne était de porter la tenue de ville à cette fête d'entrée en fonction du nouveau comité des étudiants.
Pourquoi vous venez à la fête en habit funèbre? Pourquoi?
Écoutez, pardon. Nous avons simplement voulu exprimer notre mécontentement.
C'est ça.
Pour montrer que si ces comités mitigés entrent en fonction, les libertés au campus seront enterrées.
Voilà.
On est en deuil, quoi.
En deuil.
Oui.
Mais c'est plutôt irresponsable de votre part. Oui, c'est irresponsable d'utiliser ce geste de s'habiller en noir.
Comment ça?
Attends, avez-vous oublié que vous êtes délégué de classe tous les deux?
Et alors?
Et que vous êtes suivi par beaucoup d'étudiants, vous oubliez ça?
Nous n'avons pas demandé à personne de faire comme nous.
Nous n'avons pas demandé à tout le monde de nous faire comme
ça. Cet accoutrement n'engage que nous.
Écoutez,
c'est quoi ça?
Nous ne pouvons malheureusement pas vous laisser entrer dans la salle des fêtes avec cette tenue. Pourquoi? Dans cette tenue impossible.
Non. Vous plaisantez ou quoi?
Sécurité. Écoutez-le d'ici.
Pourquoi faire?
Je vous dis, écoutez-le.
Attends. Et voilà, le débat est déjà lancé entre nos étudiants. Nous voulons simplement exprimer notre mécontentement. Si ce comité entre en fonction, la liberté au campus sera enterrée. Soutien à cette étudiante habillée en noir. Monsieur Jean Moreau Toubibou, dites-nous deux doigts sur la tempe et une main sur la bouche pour dénoncer le silence du monde face à la guerre en l'est de la RDC. Pourquoi justement recourir à ce type de langage non verbal? Est-ce qu'il permet de mieux faire passer le message comparé à d'autres formes de langage tel que le langage verbal par exemple, comme on entend parfois que le silence parle plus que les mots?
Oui, alors bon, moi je me rappelle, je vais dire cette anecdote bien avant, puisque quand j'ai travaillé avec le cardinal Monseigneur Monsengo, il me disait, écoute un peu Jean Moreau, si ton silence peut parler mieux que tes paroles, garde silence. C'est un peu dans ce sens-là que je commence l'interprétation de ce geste-là. Aussi, le geste, il faut l'interpréter selon les contextes dans lesquels on se trouve. Et c'est vrai, ce geste, deux doigts à la tempe, mais aussi un autre qui bâillonne la bouche, c'est signe. Et ça s'explique de soi-même. Ce n'était pas un salut, hein. Le deux doigts à la tempe, ce n'est pas pour saluer. Même si les militaires saluent de cette façon et les policiers, non plus en bâillonnant la bouche, je voulais dire, c'est pas non plus pour dire un bisou ou pour dire bye bye, bisou, non pas du tout. C'était bien clair que c'était pour montrer que silence, on tue. Mais aussi et surtout pour les Congolais, puisqu'ils ont trouvé que ils n'étaient pas entendus. La communauté internationale faisait semblant de ne rien voir du Congo, de tous les massacres qui se passent au Congo. Je prendrai le mot de Onana, qui disait l'Holocauste au Congo, et que tout le monde ne voulait rien dire de cet Holocauste. Et que bon, finalement, on a beaucoup parlé de l'Ukraine. Je ne vais pas minimiser l'Ukraine, ce qui s'y passe, ou des Gaza. Il y a eu beaucoup de choses de ce côté-là également qui ne sont pas vraiment humaines et de mauvais. Alors, les gestes là-bas montraient que on est en train de tuer, mais on est muselé, on ne sait pas en parler. Bon, maintenant, je vais aller vers les contextes, les cadres dans lesquels ça s'est passé. C'était un moment de médiatisation. C'était bien choisi vraiment. Même la gestuelle était adaptée pour dénoncer les crimes qui étaient en train de se dérouler. C'était vraiment des moments très bien choisis. Aussi, je peux dire que ça ne pouvait pas tromper du tout. Vous voyez, quand nous analysons, je suis très heureux que ce soit un prof de l'EFASIC, hein, puisque quand nous analysons le discours des hommes politiques qui parlent, vous voyez Kadhafi qui vous disait « je veux la paix », en serrant les poings, ce n'est pas possible. En serrant les poings, ce n'est pas la paix que l'on cherche. On voit plutôt qu'on cherche la bagarre. Mais aussi, pour la paix, c'est plutôt les mains ouvertes. Hein, c'est comme ça que nous analysons quand on est devant un écran et qu'il y a un homme politique qui parle, ou même un animateur de masse, et c'est comme ça qu'on peut le découvrir. Et que donc, ce sont des gestes qui ne me trompent pas du tout.
Oui, oui, hein, monsieur.
Il y a des gestes.
Oui, oui. Des gestes qui ne trompent pas du tout, vous le dites. Est-ce que c'est la même lecture que M. Obulokwes fait de ce geste qu'on a vu très vite plusieurs personnes et des dirigeants adopter? Est-ce que ce langage est le plus à même de susciter des réactions du monde par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC, M. Obulokwes?
Alors, si on regarde déjà dans la taxonomie des gestes, hein, si on considère que le geste, c'est un langage. On va voir avec des auteurs comme John Austin ou comme John Searle, qui est d'ailleurs l'élève d'Austin, que les gestes contribuent, en tant qu'acte de langage, ils contribuent à la performativité de la communication. Ça veut dire que tous les gestes que l'on pose n'ont pas la même signification selon que le geste, par exemple, accompagne la parole, ce qu'on peut appeler un geste locutoire. Ça veut dire, ça accompagne simplement la parole. Le geste n'a pas de force en lui-même, mais on peut arriver à des gestes qu'on appelle des gestes illocutoires ou perlocutoires. Ça veut dire, le geste en lui-même peut susciter un comportement de la part du récepteur. Donc, le geste peut avoir de la signification à lui-même. Par exemple, vous arrivez, des gens sont en train de faire du bruit dans une salle de cours, vous ne dites rien. Vous faites le geste à l'un d'eux, vous lui demandez de sortir sans parler. Ce geste-là a de la puissance. Donc, il y a une force illocutoire derrière ce geste-là qui va au-delà de ce que vous pourriez exprimer. Et donc, la combinaison du geste qu'on a vu, par exemple, là, peut effectivement pousser à plusieurs interprétations. Soit que l'on voudrait effectivement faire réagir le récepteur sans qu'on sache quelle sera sa réaction, soit que on voudrait, de son côté, on donne son intention à soi de pouvoir montrer qu'il se passe quelque chose que l'on voudrait exprimer. Le problème, c'est que le récepteur n'a pas nécessairement l'obligation d'entrer dans votre intentionnalité.
Oui, comme pour dire autrement, oui, que ce geste n'est pas aussi universel, donc il n'est pas forcément compris de la même manière par tout le monde.
Voilà, il n'est pas universel. Son universalité pourrait être dans le cadre que ça peut être conventionnel. Que lorsqu'on fait tel geste, de manière conventionnelle, on comprend que en mettant des doigts sur la tête, on comprend qu'on est en train de tuer. Et si on met l'autre main sur la bouche, on comprend que c'est le silence. Parce que d'habitude, quand on veut faire taire quelqu'un, on ferme la bouche. Voilà. Donc ça, c'est l'intention qui est du côté de celui qui veut communiquer, de celui qui fait le geste. Mais il n'y a aucune garantie que de l'autre côté, l'effet que cela va donner auprès du récepteur, que ce soit celui-là l'effet, que l'effet tienne compte de l'intentionnalité de l'émetteur. Donc ça peut être un acte perlocutoire, comme on dit, un geste perlocutoire, dont l'exécution peut ne pas être celle attendue par celui qui pose ce geste-là.
Donc on n'a aucune garantie de l'effet que cela a produit. Merci, Monsieur Obulokwes. Nous passons présent au deuxième tableau pour voir que ce langage gestuel peut parfois être interprété de diverses manières et provoquer des réactions tout autres que celles voulues par son émetteur.
Mais dégagez!
Non, laissez-nous entrer dans la salle!
Sécurité! Ni mon matin, vous n'allez pas entrer!
Nous allons. Laissez-nous entrer dans la salle!
Sécurité!
Personne ne peut s'arroger les prérogatives de nous empêcher de jouir du droit à la liberté d'expression!
Et donc, c'est donc ainsi que vous exercez cette fameuse liberté!
Oui!
Où elle est mal?
Où elle est mal? On bouge pas
ici! Nous sommes libres de nous exprimer comme on veut! À travers les ports des vêtements, à travers les gestes ou nos paroles!
Libre.
Ouais. Je vous rappelle que la liberté d'expression va de pair avec la responsabilité.
Mais ce n'est pas possible.
Ce n'est pas vrai.
On a toute une foule d'étudiants qui arrivent en portant la même tenue de deuil.
Vous avez vu ce que vous avez créé.
Nous n'avons rien à voir avec ça.
Ça
ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas.
Mais tout ce qui va se passer est de votre faute.
Comment ça, de notre faute?
Tout ce qui va se passer est de votre faute.
Comment
je
ça,
le
de
dis.
Notre faute?
Mais vous avez soulevé tout le campus en portant cette tenue bizarre là. Hein? Et maintenant la cérémonie risque d'être perturbée à cause de vous.
Personne ne peut nous interdire de jouir de notre liberté d'expression, avance un étudiant. Quand l'autre répond, je vous rappelle que la liberté d'expression rime avec le sens de responsabilité, c'est-à-dire que quelque part, on doit être conscient des conséquences de son discours verbal ou non-verbal. Monsieur Obulokwes, est-ce qu'on peut dire que du fait de son caractère non-violent, le langage gestuel non-verbal ne comporte aucun danger, qui ne peut pas cacher une sorte d'appel à la révolte ou à des violences, et finalement être à l'origine des situations d'incompréhension ou des tensions?
Bien entendu que le problème des langages tels que les gestes, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la compréhension n'est pas la même pour tout le monde. Alors, ça dépend des contextes. À part là où il y a des contextes conventionnels, on peut le voir avec des auteurs comme Gerberto Recchioni et tous les autres, qui disent que, en fait, ça dépend du contexte dans lequel on est. Si un geste est posé et que ce geste-là n'est pas conventionnellement compris de la même manière ici et là, dans d'autres circonstances, le même geste peut être compris différemment et peut-être être compris négativement. C'est cela le problème de tous les langages non-verbaux, c'est ça. C'est l'interprétation pourrait changer selon les contextes, selon l'environnement dans lequel se trouve la personne. Je vais donner un exemple. Dans un environnement où les gens sont déjà enclés à la violence, ce geste-là pourrait peut-être montrer qu'il y a une sorte de... Peut-être qu'on appelle les gens à aller encore plus dans la violence, mais à une sorte d'arbitraire qui est accepté dans cette société. Donc ça peut effectivement être cause d'une mauvaise interprétation ou d'une mauvaise compréhension. Et effectivement, ça peut entraîner encore plus de problèmes que si on était dans une situation conventionnelle où tout le monde accepte que ce geste veut exactement dire cela.
Oui, interprétation selon les contextes, donc risque également d'être mal interprété. Monsieur Jean Moreau Toubib, on a vu des images dans les écoles, des enseignants demander aux élèves de répéter ces gestes. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que ce geste finalement devienne une sorte de transmission d'une certaine haine, notamment compris par les enfants, d'après leur contexte? Monsieur Jean Moreau Toubibou.
Oui, mais René, pourquoi on doit seulement voir du côté négatif que ça puisse être un élément ou un signe de transmission de haine? Ça peut être un signe de transmission des ralliements, comme un signe d'appel au soutien. Moi, je crois qu'il ne faut pas seulement voir le négatif. Hein. Nous devons éviter le négatif, puisqu'il y a des signes, comme on le disait, des gestes comme ça, non-verbaux, qui pousse à une interprétation selon la culture, selon l'éducation. Vous voyez, je crois que vous l'avez remarqué, quand vous conversez avec les Occidentaux, si vous les pointez du doigt, un seul doigt, il a peur. Tu le vois bouger, surtout les Américains. J'y suis un peu habitué. Il bouge un peu, il dit, tiens, tu me pointes le doigt comme si c'était une arme. Par contre, dans les tribus du Congo, en tout cas, vous pouvez pointer quelqu'un du doigt, il trouvera que vous désignez quelqu'un sans problème. Et que donc, c'est ça l'interprétation dont nous parlions ici. Ça peut aller vers le côté positif, comme ça peut également aller du côté négatif. Et par exemple, quand moi je me promène avec les drapeaux en arc-en-ciel, vous voyez un peu ce que ça signifie. Hein? Les drapeaux en arc-en-ciel signifient la paix, peace, pace. Mais actuellement, quand vous vous promenez avec ce genre de drapeaux, on vous prend pour et homosexuel. Vous voyez ce que ça signifie? Donc ça dépend de celui, hein, la personne qu'on a vu faire ces gestes. C'est là qu'on peut se dire, ça signifie alors que nous puissions agir négativement. Et c'est ça le grand problème. Donc, je prends aussi un autre exemple.
Oui. Allez-y, oui, allez-y, René. Allez-y.
Un autre simple exemple, par exemple, vous voyez quelqu'un, et on le voit même au stade. Fimbo, comment ça s'est fait ça? Vous voyez? Et que quand vous trouvez quelqu'un devant vous qui commence à faire un geste comme ça, vous vous dites, il va me fouetter.
Oui, vous évoquez justement le geste dans le stade. On a vu un footballeur congolais se faire expulser du Rwanda pour avoir exécuté ce geste devenu geste de révolte, des revendications. Est-ce que ceci voudrait dire que, bien que c'est silencieux, c'est non-violent, ce geste, cette expression non-verbale peut aussi constituer un affront ou une forme de provocation et avoir finalement des conséquences graves?
Absolument, René, absolument. Surtout, bon, c'est ça le contexte dont nous parlons maintenant, entre deux pays, le Rwanda et le Congo. Et puis c'est un Congolais qui est acteur, qui est un élément, le joueur à ce moment-là, qui fait ses gestes. Et là, c'est très grave. Pour eux, pour le Rwanda, c'est un sacrilège. Celui-ci se moque de nous, puisqu'il montre, il confirme ce que son pays dit, que c'est le Rwanda qui massacre, mais là, c'est la vérité que vous poussez devant leur visage. C'est une gifle. Hein? Une gifle, et là, c'est bien tombé. Ici, c'est un geste que vous voyez là. Mais moi, j'ai vu ça aussi pour les acteurs noirs américains qui étaient aux Jeux olympiques en Allemagne du temps de Hitler, qui se sont fait exclure également des Jeux olympiques, puisqu'ils avaient montré des gestes comme ça d'un point de Black Panther, le pouvoir noir. Oui, ça veut dire que c'est un geste qui parle, qui a atteint vraiment la cible directement, qui a montré que on a mal quelque part, même si les gens ne veulent pas en parler, mais il faut être courageux pour le faire. Ça,
oui, tout à fait, être courageux. Monsieur Omulo Quest, vous avez une réaction par rapport à ce qui est arrivé à ce joueur congolais qui a exécuté ce geste sur un stade au Rwanda?
Rapidement. Oui, nous sommes dans la situation où l'intentionnalité de l'émetteur a rencontré exactement la réaction que l'émetteur attendait par rapport au récepteur. Ça, c'est vraiment un cas d'école. L'intention de l'émetteur en faisant ce geste illocutoire, ça produit des effets perlocutoires. Donc, l'autre a réagi exactement comme le voulait celui qui a commencé le geste. En tout cas, pour le cas du Rwanda, pour c'est cela. Ça veut dire que ceux qui ont reproché au joueur d'avoir fait ce geste, de l'avoir suspendu de l'équipe, ont trouvé que ce geste-là était un affront. Et effectivement, le geste, on le sait, il n'y a pas de secret, s'adresse exactement à cette catégorie de personnes que sont les populations ou les dirigeants rwandais. Et donc, ils ont pris ça à plein cœur. Et là, nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle une consonance. C'est une consonance cognitive. Ça veut dire qu'ils ont accepté eux-mêmes de montrer que ce geste-là leur fait mal, parce que ce geste-là, même si on n'a pas ajouté de la parole à ce geste, s'adressait effectivement à eux. Et ils ont encaissé le coup. Donc nous sommes dans une situation vraiment de consonance cognitive où l'intentionnalité de l'émetteur a rencontré effectivement l'acceptation ou la reconnaissance de cette intentionnalité par le récepteur.
Merci, monsieur Obulokwes. Nous allons passer au troisième tableau de notre feuilleton pour voir que le fait de comprendre l'importance du langage non-verbal n'empêche pas les étudiants de prendre le risque que ce langage gestuel soit parfois mal interprété.
Vous nous accusez d'avoir soulevé les étudiants.
Vraiment?
Mutuambi
quoi?
Chacun est libre d'exprimer son point de vue. Et visiblement, il y en a plusieurs qui ne sont pas d'accord avec cette décision.
Oui, mais vous saviez tout de même qu'en portant cette tenue, il s'agissait d'un geste très fort.
Évidemment. Évidemment. Même sans rien dire, ils ont fait passer un message et chacun l'a interprété de sa manière.
Oui. D'ailleurs, je me demande si cette façon de s'exprimer n'est même pas plus dangereuse que le langage verbal. Oui.
En tout cas, je pense que tu as raison, hein.
Quoi?
Oui, tu as raison.
Sérieusement, Aman?
Oh.
Tu es sérieux, là?
Oh, je suis sérieux.
Non, tu es sérieux?
Ouais.
Ah! Maintenant, tu es d'accord avec eux?
Oui, je suis d'accord avec eux. Ils ont raison.
Mais ce qu'ils disent là est absurde.
Non, Kitoko.
Non, comment?
Non, écoute, ils ont raison.
Raison en quoi?
Je me rappelle qu'un jour, deux membres de ma communauté avaient été tués par erreur.
Et après?
Juste parce que quelqu'un avait fait une mauvaise blague en faisant signe de la main en imitant l'action du gorgé.
Amani, mais Amani, toi aussi. Rappelle-toi que pour ce qui nous concerne, ce geste de s'habiller en noir n'était qu'une manière pacifique de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce comité. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Faut pas mélanger des choses, des trucs. En tout cas, en regardant tous ces étudiants en noir, on comprend qu'ils sont tous solidaires.
Kitoko, c'est vrai. C'est vrai vraiment. Mais faisons quand même très attention aux gestes non-verbaux que nous posons pour faire entendre nos voix. Il faut qu'on veille à ce qu'ils ne risquent pas d'inciter aux actes de violence.
Là, tu as raison.
Oui, c'est ça, tu as raison.
Et pas chez lui, Baba, tout mon mari, tout yaku.
C'est bon, la compris, tu as raison.
Dans ce tableau, on entend les étudiants se dire, même sans dire un mot, ils ont fait passer leur message et chacun l'a interprété à sa manière. Ou encore, attention aux gestes non-verbaux que nous posons pour faire entendre nos voix. Il faut qu'on veille à ce qu'ils ne risquent pas d'inciter aux actes de violence. Monsieur Jean-Moreau Toubibou, n'est-ce pas que le langage gestuel est l'une des meilleures façons de s'exprimer, de faire entendre sa révolte, ses revendications, de faire comprendre sa frustration sans forcément recourir à la violence verbale ou physique? En d'autres mots, ce langage est-il plutôt utile et efficace? Votre conclusion, M. Toubibou?
Oui, ce langage gestuel vraiment est utile et c'est un moyen facile, hein, moyen facile de faire passer le message. Moi, je trouve, sans même... Bon, évidemment, ça dépend de l'intention. Vous voulez faire du mal à l'autre pour que le récepteur réagisse tel que vous voulez. Faites votre geste tel que vous voulez. Ça peut aller sans avoir prononcé un mot, seulement en faisant des gestes. C'est plus facile. Mais aussi, hein, pour nous qui faisons le cinéma, nous le disons souvent, une image vaut mille mots. Ça veut dire ces gestes, ça vaut tout un tas de discours qui devaient être prononcés à partir de ces gestes seulement. Et les autres, ils avaient très vite compris que c'était un affront, comme le disait le prof, et c'était un outrage, c'était une offense pour eux. Et je crois que c'est le moyen facile, au lieu de se mettre à développer des discours, et même si on dit que la politique du siège vide ne paye pas, mais c'est mieux aussi quand vous êtes mécontent, au lieu de faire trop de discours ou d'aller traiter avec quelqu'un qui ne vous supporte pas, qui ne vous respecte pas non plus, autant un siège vide et on s'en va. Vous voyez, et que donc, c'est un moyen efficace pour s'exprimer, pour faire passer son geste, et moyen efficace pour montrer, moyen efficace, un signe efficace pour montrer soit son approbation, ça c'est vrai. Quand on bouge seulement la tête du haut vers le bas, on trouve qu'on acquiesce, on est d'accord. Et quand on bouge la tête alternativement, sans rien dire, on trouve qu'on n'est pas d'accord. Et que c'est facile, ça ne vous demande pas beaucoup de choses à prononcer ou de mots à dire, quoi. Donc c'est un geste efficace pour s'exprimer, pour se dire, je vais lui montrer que je désapprouve tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il m'a fait. On peut le faire aussi sans avoir rien prononcé.
Oui, une image vaut mille mots, vous le disiez. On va prendre la conclusion de monsieur Obulokwest, monsieur le chef des travaux. Que dire alors des précautions à prendre pour que finalement ce geste, ce langage non verbal, ne traduise pas une sorte d'appel aux actes de violence, mais qu'elle incite réellement le monde, pas qu'à observer sans agir, mais plutôt à lever réellement le ton pour que, tant soit peu, des solutions soient trouvées à la crise à l'Est de la République démocratique du Congo.
Oui, je crois rapidement que ce qu'il faut faire pour qu'on arrive au résultat escompté, c'est d'accompagner ce geste-là qui a été fait d'une sorte de communication d'accompagnement. Ça veut dire que ce langage ne pourrait pas rester éternellement un peu isolé des contextes. Il faut le mettre chaque fois dans le contexte et essayer de savoir quand on veut l'utiliser, on l'utilise pourquoi. Il faut éviter effectivement que ce soit au niveau peut-être de la croyance. Si vous allez dans les croyances des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que chez vous, ça peut toujours déranger. Ça peut aussi être que là où vous voulez qu'il y ait l'action, ça peut produire l'effet contraire. Vraiment, pour moi, c'est que comme il existe des circonstances où on voudrait peut-être rester discret ou moins frustrant, on peut utiliser ce langage-là. Sinon, je pense que ça doit être accompagné d'un autre type de communication verbale qui l'entoure. Comme ça, le geste, il est bien compris par tout le monde au même moment, au lieu de laisser encore des zones d'ombre chez certains qui, soit volontairement ou involontairement, soit n'étant pas dans les mêmes conventions que vous, vont interpréter ce message différemment. Et donc, on risque de ne pas atteindre exactement ce qu'on veut atteindre. Sauf, par exemple, pour le cas du Rwanda qui a encaissé, on l'a vu, mais peut-être que dans d'autres circonstances, cela pourrait donner l'effet contraire. Il faut donc entourer ça, mettre ça dans une stratégie globale de communication qui soit accompagné d'autres types de communication, peut-être verbale, pour qu'on comprenne très bien pourquoi ce message est fait et à ce moment-là, même quand il sera resté seul, ce geste-là aura déjà une signification, aura déjà été compris par ceux à qui on s'adresse.
Merci Monsieur Obulokwest. Le ton qui fait la panique, c'est la fin de ce numéro qui a porté sur ce langage gestuel, le langage non-verbal, pour faire entendre ses revendications, René.
Et oui, Babel, deux doigts sur la tempe et une main sur la bouche pour dire au monde que vous vous taisez, vous fermez les yeux et les oreilles, alors que on continue de tuer chez nous. Un cri d'alarme des sportifs congolais à travers le monde, devenu le symbole de protestation des Congolais face au silence de la communauté internationale, face aux violences et aux tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Ce langage non verbal constitue, comme on l'a vu, une façon non violente de s'exprimer et de se faire entendre. Toutefois, il doit être accompagné des précautions pour ne pas être mal interprété ou mal compris et pour éviter qu'il ne traduise des appels à la violence, qu'ils n'aboutissent sur des situations qui s'éloignent de la vraie recherche de solutions à la crise dans la région des Grands Lacs.
C'est le temps qui fait la panique, en partenariat entre la bénévolence à Grands Lacs et Radio Capi, pour vous alerter sur l'inflation des paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Nous disons merci à M. Obulokwest, chef de travaux à l'IFASIC, et bien sûr à M. Jean Moreau Toubibou, animateur au groupe Jérémy de Bukavu. Merci également à vous qui nous suivez avec beaucoup d'attention. Nous prenons maintenant, rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau thème. En attendant, retrouvez ce numéro en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 toujours sur Radio Capi ou à tout moment sur radiocapi.net et abarirdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Capi et abarirdc. Encore une fois, merci. Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.